Aux amis, membres de la famille qui nous font le plaisir de célébrer le Seigneur avec nous. Et également, bienvenue, alors, la sœur de Lydia, Nesrine, voilà. Alors, bienvenue hein, à nouveau, c'est un plaisir de te revoir. Et Nesrine, qui est donc présente avec son mari, si je comprends bien, et vous habitez dans le sud-ouest. Ok, d'accord, une belle région, parfait. Eh bien, en tout cas, joyeuse Pâques à tous. Alors, Pâques, c'est un moment qui est important pour les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec un rituel, ça n'a rien à voir avec... du déjà vu, bon tiens une fête de plus, ah chic il va y avoir des chocolats, ah il y a des poussins, ah on va amuser les enfants, c'est bien au-delà. Bien sûr que ça devrait être accompagné de la joie, mais il y a tellement de raisons de se réjouir pour Pâques. Tout à l'heure on a chanté, bien sûr Jésus il est élevé, nous le glorifions et il est ressuscité. Et puis après, on a chanté « Je suis ressuscité, je vis ». Et peut-être que pour plusieurs, ça paraît prétentieux de dire « Attends, oupla, d'accord, Jésus ressuscité, peut-être que c'est quelque chose de complètement nouveau, parce qu'il y a des millions de Français, il ne faut pas aller chercher loin, hein, des millions de Français qui croient que Jésus est toujours mort ». C'est ce qu'ils pensent. Alors, on est habitué à le voir sur une croix, mais à vrai dire, quand on comprend vraiment que Jésus est ressuscité, on est en train de voir avec l'architecte comment on peut améliorer les locaux. On vient d'en louer. Hein, et vraiment, Jean-Marc était en train de me dire tout à l'heure à quel point il aime travailler avec ce jeune architecte. Il a des tas d'idées, c'est extraordinaire. Et bien sûr qu'on va mettre une croix, mais sur la croix, il n'y aura aucune statue. On ne mettra pas Jésus représenté, parce que techniquement, la Bible dit qu'on ne peut pas, mais plus que cela, c'est parce que Jésus n'est plus sur la croix. Et la raison pour laquelle nous pouvons chanter « Je vis », c'est parce que quand Jésus est ressuscité au bout de trois jours, eh bien, il... Et la Bible nous dit qu'il est venu afin de donner sa vie. Et la vie qu'il est venu donner à 67 millions et plus de Français et à la planète entière, ou presque quoi, 6 milliards maintenant d'individus sur Terre, 8 milliards d'individus, Jésus est venu afin de donner sa vie. Quelle vie ? La vie qu'il a reçu au moment de sa résurrection. C'est une qualité de vie qu'aucun être humain ne peut donner à un autre être humain. Aucun père, aucune mère ne peut donner cette qualité de vie à son enfant. C'est une qualité de vie qui doit se recevoir. On ne peut pas la mériter. Elle doit se recevoir. Elle ne peut que se recevoir. D'une seule personne, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, laquelle seule qu'il est venu donner. » Et quand on a chanté tout à l'heure « Je suis ressuscité, je vis », c'est exactement cela. Le mot « Pâques », qu'est-ce que cela veut dire? Le mot « Pâques » veut dire « aller de l'autre côté, traverser, passer de l'autre côté ». Alors, très souvent, quand les gens entendent cela, ils pensent que ça veut dire passer, style, comment, l'ancienne expression, l'arme à gauche, ça veut dire mourir. Bon, ça, c'est une manière de passer de l'autre côté. Hein? Hein? Mais c'est plus que cela. Parce que même passer de l'autre côté, on continue à vivre, mes amis. On continue à vivre de l'autre côté. Et c'est ça qu'il faut que l'on choisisse, vivre, mais vivre où? Vivre avec Dieu ou vivre sans Dieu. Parce que déjà sur cette terre, il est possible de vivre avec Dieu ou de vivre sans Dieu. Je vis avec Dieu quand j'ai entendu la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il a payé pour mes péchés. J'entends cette nouvelle, je reçois cette nouvelle. Et cette nouvelle-là que je reçois, eh bien, elle se matérialise en moi. Je reçois la vie du ressuscité en moi, qui fait que je deviens une nouvelle créature. Avant, j'avais dans mon cœur, bien sûr que tous les êtres humains, nous sommes sur Terre, nous vivons, mais nous sommes faits pour vivre avec une autre qualité de vie à l'intérieur. Et où j'ai cette qualité de vie de Dieu, qui se trouve uniquement en Jésus, où je ne l'ai pas. Et avant de recevoir cette vie-là, eh bien, j'avais une nature en moi qui s'appelle la nature du péché. Et cette nature du péché faisait que, eh bien, par nature, j'étais ennemi de Dieu. J'ai entendu que Jésus est mort sur la croix, j'ai entendu qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il veut me donner cette vie de résurrection. Et quand je la reçois, cette vie de résurrection me donne un cœur nouveau. Je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé, avant je vivais dans un état de séparation d'avec Dieu, je suis passé de l'autre côté, aujourd'hui je vis uni à Christ. C'est-à-dire que Dieu et moi nous sommes un. Nature, Dieu et moi nous sommes un. Eh bien, je vis, comme Paul, je vis avec la vie de Dieu en moi. Cette vie a fait de moi quelqu'un de nouveau. Je suis passé d'un état de séparation à un état d'union avec Dieu. C'est énorme. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans a complètement bouleversé le cours de l'éternité, de l'humanité. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui ont accepté la vie du ressuscité qui est offerte gratuitement et qui aujourd'hui non seulement vivent avec une vie nouvelle en eux, qui leur donne un regard nouveau sur le monde, qui leur donne un regard nouveau sur eux-mêmes, une vie nouvelle qui leur permet de faire des choses nouvelles, de dire des choses nouvelles, d'envisager des choses nouvelles, de rêver des choses nouvelles. Et plus que cela, qui nous assure une éternité nouvelle. Parce que c'est bien d'avoir des paroles nouvelles, une vie nouvelle sur Terre. Mais comme l'être humain est fait pour vivre pour l'éternité, bien ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et ce qui est magnifique, c'est que cette vie nouvelle que chacun a reçue est celle qui nous amène auprès du Père quand nous quittons cette terre. Alors, il n'y a pas de quoi se lamenter, hein. C'est comme quitter un studio pour aller vivre dans un château. Décoré à notre goût, il n'y a vraiment pas de quoi se lamenter. Et quand Jésus est venu, il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie ». Je suis venu afin que vous ayez cette vie. Il ne peut pas la forcer sur nous. Il ne peut pas nous l'imposer. Il est venu s'assurer que légalement, il pouvait nous la donner sans reproche. Il s'est assuré que jamais plus personne ne pourrait nous la reprendre une fois que nous l'avons reçue. Il s'est assuré qu'il nous l'a donnée autant que nous en ayons besoin. Quelle générosité! Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au quoi? 21 avril 2019. C'était laborieux, hein? Nous sommes tous sur le même calendrier, oui. 21 avril 2019, cette bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée. Pourquoi y a-t-il encore des églises? Pourquoi y a-t-il des gens, des missionnaires, comme on entendra parler là au mois de mai, cette jeune femme qui a quitté son pays, qui maintenant vit en Asie, qui annonce la vie nouvelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau départ dans ta vie? Eh bien, c'est en Jésus que tu le trouves. en recevant cette vie nouvelle que Jésus est venu et en même temps en recevant le pardon de nos péchés qui a été généreusement accordé à la croix parce qu'il y a 2000 ans, notre ardoise a été effacée. C'est-à-dire, plus personne ne doit rien à Dieu. Sauf s'il refuse le prix qui a été payé pour lui. Alors, il faudra qu'il paye pour ses péchés. S'il refuse que Jésus a payé le prix pour ses péchés, il faudra que, dans ce cas-là, cette personne paye le prix pour ses péchés. Et le prix pour nos péchés, la Bible nous dit, c'est un état de séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Moi, je suis juste contente d'avoir, quand j'ai entendu cette bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus avait été sur la croix, avait payé le prix pour mes péchés, j'ai dit merci parce que je n'aurais pas besoin de le faire, parce que je savais que j'avais péché. Ce n'est pas forcément le mal qu'on a fait, on en a tous fait. C'est aussi le bien qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Tout a été réglé. Notre ardoise a été effacée. C'est gratuit. On ne peut pas le mériter. Nous ne pouvons que l'accepter. Personne n'est trop jeune. Personne n'est trop vieux. Celui qui entend est celui qui est responsable du choix qu'il prend. Mais une fois que l'on a reçu, que l'on a accepté ce sacrifice de substitution, parce que chacun de nous, les 8 milliards que nous sommes et ceux qui nous ont précédés, donc, on sait tous qu'il faut éteindre nos portables maintenant. Voilà, on a une sonnerie qui nous l'a rappelé. Mais c'est 8 milliards que nous sommes aujourd'hui, mais il y a plus que 8 milliards qui existent. Chacun de ces milliards de personnes a un choix à faire. Et personne ne peut le faire à notre place. Au moins une fois dans notre vie, nous aurons entendu un prix a été payé afin que tu reçoives une qualité de vie qui va te permettre de vivre en union avec Dieu pour l'éternité. Qu'en dis-tu ? Alors oui, ceux qui ont accepté Jésus peuvent dire, eh bien, je vis, je suis ressuscité, je suis passé de la mort spirituelle à la vie. Et le mieux, c'est que j'ai rien fait pour cela. Pendant que tout le monde médite sur ces paroles, j'aimerais vous lire quelques passages de la Bible. Vous savez ce qui fait... Peut-être que vous n'êtes pas habitué à avoir une telle joie et nous sommes tellement contents de chanter que Jésus est ressuscité parce que quand il est allé sur la croix avec nos péchés, mais au bout de 3 jours, comme le prix était payé, le Père l'a ramené à la vie. C'est cette vie aujourd'hui que Jésus a à offrir à tous. Mais d'où est-ce que ça vient ? Je vais d'abord vous lire un passage dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit que Dieu avait créé la race humaine. Nous ne sommes pas des animaux. Non, nous ne venons pas du singe. Non, nous ne venons pas d'une cellule de poisson. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons été engendrés par Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu des robots. Dieu n'a pas voulu des statues. Dieu n'a pas voulu des hommes, des femmes qui juste l'aiment par devoir, parce qu'on est obligé, parce qu'il est Dieu. Dieu n'est pas un gourou, Dieu est un père. Donc il a donné à l'être humain, au premier homme, à la première femme, il a donné le libre arbitre. Il a dit, je te laisse choisir, si tu veux vivre avec moi ou si tu veux vivre sans moi, en tout cas, moi je te dis que je veux vivre avec toi. Et aujourd'hui, tant que l'Évangile est annoncé, Dieu dit à chaque être humain, « Moi, je veux vivre avec toi. » Je voudrais bien partager ta vie. Moi, je voudrais bien que tu partages la mienne. Ouh ! À quel point nous sommes gagnants de partager la sienne. Qui peut dire ça ? Oh là là, nous sommes... Alors franchement, c'est le jackpot, c'est ça, bingo. Alléluia. Partager la vie avec Dieu. Partager la vie de Dieu. Mais le premier couple sur terre, eh bien, a mal utilisé son libre arbitre. Et il a cru un mensonge de la part du diable, le plus grand ennemi de Dieu. Et il a choisi de croire qu'il vivait mieux sans Dieu. Je répète. Il a choisi de croire qu'il vivrait mieux sans Dieu. Sans la source de l'amour, sans la sagesse, sans la vie, sans le fait de voir son futur, sans le fait de connaître la raison pour laquelle il est sur terre, sans la paix, sans la joie. Il a cru qu'il vivrait mieux sans Dieu. Comme aujourd'hui, des millions de personnes croient qu'ils vivent mieux sans Dieu. Pour ceux qui ont cru cela un jour et qui aujourd'hui partagent la vie de Christ, combien on peut dire, mais pourquoi je ne l'ai pas accepté avant ? C'est vrai ? Quelqu'un s'est déjà dit ça. Moi, j'ai 22 ans quand j'ai entendu cette bonne nouvelle-là. Et je me suis dit, mais quel gâchis, quel temps perdu. Quel temps perdu ! Pourquoi je l'ai ignoré ? Pourquoi je n'en ai pas voulu avant ? Quand je vois tout ce qu'il a à me donner maintenant, tout ce qu'il m'a déjà donné. Donc l'être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu. Il a tourné la vie à Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Et il se trouve que Dieu a été obligé de respecter son choix. Donc Dieu a vécu d'un côté, l'être humain a vécu de l'autre. Mais la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 3 qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous est dit, à partir du verset 24 ou 22, tiens. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait que l'être humain ne connaisse que le bien. Le mal existait, puisque l'ennemi de Dieu existait déjà, hein, mais Dieu voulait lui révéler le mal. Il ne voulait pas que l'être humain connaisse le mal en l'expérimentant. Parce que Dieu savait que si l'être humain expérimentait le mal, au lieu de laisser Dieu le lui révéler, le mal le dominerait. Mais bon. Et il est dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu tout de suite une décision qui a été prise de la part de Dieu. C'est de dire, il va falloir empêcher l'être humain de vivre éternellement. De quelle vie s'agit-il ? La Bible dit que nous sommes un être spirituel, que nous avons une âme, c'est-à-dire des émotions, une intelligence, une volonté, et que nous habitons dans un corps. Un avertissement avait été donné à l'être humain, c'est que si jamais tu cherches à connaître le mal de toi-même, eh bien, non seulement ce mal te dominera, mais la vie physique connaîtra une fin. Normalement, on était fait pour vivre l'éternité dans notre corps. Quand l'être humain a péché, a voulu se priver de Dieu, non seulement dans son cœur, dans son être même, est venue une nature de péché, mais en plus, son corps a connu une cessation d'existence que l'on appelle la mort. La mort, dans un sens, ce n'est pas grand-chose, ça veut juste dire eh bien, être séparé d'avec. C'est-à-dire que l'être humain a été séparé d'avec son corps. Et c'était nécessaire que l'être humain soit séparé d'avec son corps, que son corps meure, parce que le temps de notre vie sur terre est un temps de choix. Si l'être humain avait vécu pour l'éternité dans son corps, Dieu n'aurait jamais pu le racheter. Et pour l'éternité, nous aurions été perdus avec la nature du péché. Pour l'éternité, nous aurions été séparés d'avec Dieu. Dominés par cette nature. On n'aurait jamais pu retrouver la vie de Dieu. Donc Dieu a été obligé de le faire là. Il dit, on va l'empêcher de prendre de cet arbre de vie. Et il dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et l'idée, c'est qu'il la cultive à la sueur de son front. Ce n'était pas le fait qu'il travaille, c'était le fait que maintenant, eh bien, il soit dans le mérite. Je dois mériter ce que j'ai. Il n'en était pas ainsi au départ. Nous vivions avec la bénédiction. Tout ce que nous faisions était facile. Mais quand l'être humain a choisi de pécher, il a vécu en fonction de ce qu'il pouvait accomplir lui, puisqu'il ne voulait pas de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. C'est-à-dire que désormais, entre Dieu et les hommes, il y avait une séparation, mais une séparation physique. Il y avait des anges qui empêchait l'être humain de vivre pour l'éternité dans son corps. Et il y a ces anges qui étaient là pour garder le chemin. Regardez avec moi maintenant dans Exode, chapitre 40. Mais est-ce que Dieu voulait cela? Est-ce qu'il voulait vraiment qu'il y ait une séparation de la sorte entre lui et Dieu? C'est quelque chose, l'être humain ne pouvait plus retourner à Dieu. Mais Dieu, lui, n'a jamais changé d'avis. Vous savez que tous les gens qui rejettent Dieu sur cette terre-là, Dieu les aime. Les gens ne peuvent pas empêcher Dieu de les aimer. Dieu n'aime pas forcément ce que font les gens. Ça, c'est autre chose. Si ton petit garçon a jeté son assiette de compote, surtout si elle a atterri sur le nez de son frère, tu ne vas pas aimer ce que ton fils vient de faire. Néanmoins, tu aimes ton fils. On voit la différence? Donc, Dieu est amour. Dieu aime tous les êtres humains. Approuve-t-il tout ce que les êtres humains font? Non. Néanmoins, Dieu n'a jamais mis de côté ce désir-là d'être à nouveau accessible à l'être humain. Et Dieu a commencé par manifester ce désir-là avec la création d'un tabernacle. Vous y êtes dans Exode au chapitre 40, versets 33 à 38. Il est dit, Dieu a donné à Moïse des instructions. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Photo numéro 1 peut-être, image numéro 1. C'est la dernière, ça. Tabernacle. Elles sont toutes numérotées. Voilà. Donc, l'Éternel voulait quand même vivre au milieu des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suscité un peuple. Parmi les nations, il s'est suscité un peuple. On va résumer, il s'agit du peuple juif. Il s'est formé lui-même un peuple à partir d'un seul individu, Abraham. Et il a donné, plus tard, quelques années après, des ordres à Moïse. Et il a dit à Moïse, voilà, tu vas me faire un tabernacle. Tu vas me faire une tente. Ceux qui ont été en Israël récemment, c'est ce que l'on a vu. On a vu un tabernacle quand nous étions à Ariel. Et nous avons vu cette tente-là qui était faite en peau d'animal à l'intérieur. Il y avait un tissu, on va en voir. Mais ce tabernacle-là est constitué, il y a le parvis tout autour, et puis il y a deux parties dans ce tabernacle. Une partie, la première partie, vous voyez un rideau ici, un premier rideau à l'entrée, avec un chandelier, une menorah, avec une table, avec des pains de pains, et puis un autel. De l'autre côté du voile, il y a une arche sur laquelle réside la présence de Dieu. Dieu s'est arrangé pour que quelque part sur cette planète, les êtres humains aient un aperçu de ce que cela veut dire être en contact avec Dieu. C'était extraordinaire. Mais entre les deux, il a dû mettre un rideau. Il a dû mettre un voile. Pourquoi ? Parce que ce voile montrait que l'homme ne pouvait pas juste se précipiter dans la présence de Dieu n'importe comment. Dieu est un Dieu trois fois saint. Et la sainteté de Dieu aujourd'hui, on a des difficultés à s'en rendre compte parce que quelquefois, bien, on prend un peu trop Dieu à la légère. On prononce son nom, « Oh mon Dieu, oh le bon Dieu, da, 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 da. » Mais Dieu est Dieu. La sainteté de Dieu est tellement énorme que quelqu'un qui est en contact avec une telle présence tangible tombe à terre. Il ne peut pas tenir. Et là, il a représenté. Alors, on pourrait passer des heures sur ce que cela veut dire, c'est la manière dont la structure de ce tabernacle, mais là n'est pas l'idée. L'idée est que Dieu s'est donné les moyens de ramener sa présence sur terre de manière tangible, mais en montrant qu'il y avait une séparation entre l'humanité et lui. On va continuer. Alors, il est question là de ce fameux voile. Comme il est dit, je vous le lis simplement dans Exode chapitre 26, il est dit « Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Alors, ce voile-là, je vais vous en parler un petit peu, parce qu'il m'a intriguée. Il y a quelque chose que j'ai découvert qui m'a profondément touchée. Parce que ce voile, ce n'était pas un voilage. Ce voile-là, on le retrouve dans le temple, des années après. Ce tabernacle était démontable. Et à un moment, Dieu a dit « Non, il me faut un endroit, un temple » qui va être immense, et tout le monde viendra m'adorer à Jérusalem. Et là encore, il y avait un autre voile, on le verra tout à l'heure. Mais il faut savoir que ce voile-là faisait 18 mètres de hauteur. 18 mètres de hauteur plié d'une certaine manière. Il faisait plus de 10 centimètres d'épaisseur. Il y a un rabbin qui en a parlé, et voici ce qu'il a dit. Le rabbin Siméon ben Gamaliel a dit « L'épaisseur du voile est d'une largeur de main. » Prends ta main. Regarde, voilà, là tu as l'épaisseur du voile. Il était tissé de 72 fils, et chaque fil a 24 fils en lui. Il fallait 300 prêtres pour le laver. Donc, vous imaginez que ce voile-là qui séparait du lieu saint et que l'on retrouve plus tard dans le temple, le sacrificateur, alors dans le temple, tout le monde pouvait aller sur le parvis. Dans la première partie du temple qui était le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvait entrer. Et ensuite, de l'autre côté du voile, il y avait un seul sacrificateur qui était appelé le souverain sacrificateur, qui seul entrait, une personne, une fois par an, et là, il apportait le sang des sacrifices. Si le sacrifice avait été fait correctement, il ressortait vivant. S'il présentait le sacrifice n'importe comment, il mourait sur le champ à cause de l'intensité de la présence de Dieu. Donc vous imaginez que celui qui était nommé sacrificateur ce jour-là, je ne suis pas sûre qu'il dormait. Surtout s'il avait fait n'importe quoi de sa vie avant. Il rentrait dans la première partie du temple et je pense que tous les autres sacrificateurs qui étaient là devaient dire « Alors, t'es prêt ?» Et il fallait qu'il réfléchisse avant d'y aller. Parce que la Bible nous dit que d'abord, il offrait un sacrifice pour lui-même. Ben oui, parce que lui aussi avait péché. Et après, il offrait un sacrifice pour les péchés du peuple. Mais quand cet homme-là rentrait dans le Saint des Saints, c'est comme s'il se heurtait à une porte. À nouveau, ça n'était pas un voilage. Ce n'était pas le style de voilage que vous avez sur vos fenêtres aujourd'hui. C'était de cette épaisseur-là. Il ne pouvait pas rentrer en disant « Ah, oh, ben tiens, je ne me suis pas rendu compte que j'étais rentré. » Tu sais, « Oh, je suis dedans, là. Je suis dans le lieu très saint. Et Dieu est là. » Non, mais attends, hein, je fais marche arrière. Je n'avais pas l'intention de rentrer. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Il rentrait dans le lieu très saint, dans la toute présence de Dieu, en sachant qu'il allait être jugé. Et c'était intentionnel, en poussant ce lourd rideau de 18 mètres de la largeur d'une main, en le poussant et en entrant dans le lieu saint, il ne pouvait pas dire « je ne sais pas où je suis ». Maintenant, lisons dans, nous parlons de la Pâque, nous parlons de ce jour-là où Jésus est mort. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans qui a impacté vos vies, qui a impacté ma vie. Regardons maintenant dans Matthieu, il y a quelque chose qui s'est passé, chapitre 27, verset 51. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez, quand c'était au moment de l'année, au moment de la Pâque, où les gens apportaient un agneau, apportaient un animal au sacrificateur, et le sang de cet animal allait être mis à mort, et le sang de cet animal allait être apporté devant Dieu par le grand prêtre. Et à partir de ce moment-là, si le sacrifice était accepté, eh bien, les péchés du peuple allaient être couverts, c'est-à-dire Dieu n'allait pas les traiter en fonction de leurs péchés. Parce que Dieu avait choisi de ne plus les voir. Ils étaient là, donc le peuple avait la conscience de ses péchés. Et pendant que les animaux sont offerts au temple, pendant qu'on entend le bêlement des agneaux, pendant qu'on entend toute cette foule qui parle, certains pleurent parce qu'ils ont conscience de leur péché. D'autres rient parce qu'ils savent que cet agneau va être suffisant pour couvrir leur péché et que Dieu ne leur en tiendra pas compte. Il y a de tout. Est-ce que vous avez déjà été à une fête juive? Vous avez déjà été au Kotel, à Jérusalem, le brouhaha qu'il y a. Vous savez, cette idée d'approcher dans les églises. J'ai bougé ma chaise. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Et quand on se trouve au milieu des Juifs, chacun a un mot à dire, chacun a une expression quelconque. Et là, Jésus est suspendu sur la croix. Il a été fouetté, il a été traité comme un pécheur, il a été traité comme un malfaiteur. Que nous étions ? Nous étions un malfaiteur aux yeux de Dieu. Il a été traité comme nous aurions dû être traités. Il a été fouetté des coups de fouet que nous aurions dû avoir pour avoir péché. Et lui, l'innocent, l'agneau de Dieu, est sur la croix depuis 9 heures du matin. Et pendant ce temps, il y a les agneaux, il y a le sang des animaux qui souffrent, il y a l'encens qui monte devant Dieu. Et il y a une effervescence à Jérusalem. Tout le peuple s'est réuni à Jérusalem, tout le peuple est autour du temple. Tout le peuple attend que le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint, aille au-delà de la séparation entre Dieu et les gens. Tout le monde attend cela, parce que là, le verdict va tomber. Et Jésus, celui que Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu, est lui aussi offert en sacrifice. Et la Bible nous dit qu'à midi, c'est-à-dire à la 9e heure selon le calendrier juif, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'est important. Et vers la 9e heure, Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Ça veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi est-ce que Jésus a crié cela ? Parce qu'il était abandonné de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus a crié ça ? Parce que comme Jésus portait notre péché, il a ressenti ce que ressent quelqu'un qui va en enfer. Jésus a ressenti ce qu'était cette colère de Dieu qui s'abat contre le péché. Jésus a ressenti ce que cela veut dire. Quelqu'un qui vit sans Dieu. Vous savez, les gens, ils disent, « Oh, sur cette terre, mais si Dieu existait, si Dieu existait. » Vous savez, cette terre n'est plus ce qu'elle aurait dû être parce que l'être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu. Néanmoins, la Bible nous dit que Dieu... Donc, c'est pour cela qu'il y a tellement d'injustice. Vous savez, les gens ne meurent pas de faim parce que Dieu n'est pas bon. Les gens meurent de faim parce que les hommes ont voulu gérer l'économie de cette terre sans Dieu. Voilà la raison pour laquelle. Les gens meurent de faim, non pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce qu'il y a un gros déséquilibre financier. Cette terre connaît des tremblements de terre, non pas parce qu'elle a été comme cela, comme parce que Dieu l'aurait voulu ainsi, c'est parce qu'elle a été déréglée avec le péché de l'homme. Voilà pourquoi il y a tant de catastrophes. Voilà pourquoi il y a tant d'injustices sur cette terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés à trouver Dieu en regardant ce qui se passe. Néanmoins, la Bible nous dit que Dieu est bon pour le juste et pour les pécheurs. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Dieu fait briller son soleil sur celui qu'il aime et sur celui qui le rejette. Donc, la bonté de Dieu se manifeste quand même sur cette terre. Mais il y a un endroit, au départ, ça n'était pas pour l'être humain, mais l'être humain qui rejette Dieu, qui dit « Moi, je ne veux pas de Dieu, je veux faire ma vie sans Dieu, fichez-moi la paix !» Cette personne est libre, même de le dire comme ça est pire. Alors, quand cette personne va quitter cette terre, parce que le moment qui nous est donné pour choisir ou avec qui on veut passer l'éternité, c'est pendant que nous sommes dans ce corps, pendant que nous sommes sur cette terre. Mais quand on quitte cette terre, on va là où on a choisi quand on était dans notre corps. Et il doit exister, et ça n'est que justice. Un endroit dans l'univers, quelque part dans cet univers, où Dieu a choisi de ne pas être afin de satisfaire celui qui veut vivre sans lui. Et la personne qui va dans cet endroit, parce qu'il ne veut pas de Dieu, va ressentir exactement ce que Jésus a vécu quand il a été sur cette croix et qu'il a dit « mon Dieu, être abandonné de Dieu ». Cette terre, aussi désastreuse qu'elle soit, on ne connaît pas ce que c'est d'être abandonné de Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne le voit pas autant qu'on devrait le voir. Mais en attendant, personne ne peut dire on est abandonné. Parce que Dieu cherche de mille et une manières à manifester sa justice. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis ensuite, au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé à ce moment-là. Montrez la photo numéro 3. Voici le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple, je ne sais pas si vous voyez bien, se déchira. Jésus a été sur la croix, il a porté nos péchés, le grand cri qu'il a poussé, c'est fini, tout est fini. Il était en train de dire, la loi ne sert plus à rien. Et si le voile se déchire, la présence qui est de l'autre côté du voile part et la Bible nous dit remonte au ciel. Il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus cette présence divine derrière. Allez aujourd'hui à Jérusalem, il y a un résidu de la présence divine que l'on sent quand on va au mur, sur l'esplanade du temple. On sent la présence de Dieu. Dans certains endroits, on sent la présence, c'est un résidu de la présence de Dieu. Mais là, le voile s'est ouvert en Dieu, en deux. Cette épaisseur-là s'est ouverte en deux. Et la Bible nous dit, du haut jusqu'en bas. Ça ne pouvait pas être un être humain qui a déchiré ce voile. Vous savez, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions reçu un athlète qui nous avait fait des démonstrations de puissance. C'était énorme, c'est Monsieur Muscle à côté, c'est une allumette. Vous vous rappelez de lui? Oh là là! Et il avait pris un annuaire et il l'avait déchiré à main nue en deux. Et nous, on était là, certains, ils pouvaient à peine porter un annuaire téléphonique et l'autre. Et il le déchire en deux. Mais ici, c'est 18 mètres de tissu, de l'épaisseur d'une main, depuis le haut jusqu'en bas. Vous imaginez la frayeur que se sont pris les sacrificateurs, parce qu'il y en avait. Il y en avait dans la première partie du temple qui étaient en train de faire les rituels des sacrifices. Et tout d'un coup, il y a cette énorme déchirure. Alors c'est vrai que cela symbolise le fait que Jésus a payé le prix, il n'y a plus de séparation, plus besoin de voile. Parce qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a plus de séparation. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose d'autre que l'on voit dans cela. On sait ce que Jésus a ressenti sur la croix. On sait ce que les sacrificateurs ont ressenti. Mais il y a encore autre chose. C'est qu'il nous est dit qu'il y avait d'énormes ténèbres. Il y avait d'énormes ténèbres. La Bible nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Est-ce que vous savez pourquoi? Regardez avec moi dans le psaume 18. Psaume 18. Alors, j'espère que vous relirez ces passages-là à la maison, que vous prendrez le temps de réfléchir à cela. Mais dans le psaume 18, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit. À partir du verset 4, et ici, c'est David qui parle, mais à vrai dire, il parle de ce que Jésus vivrait des années plus tard. Et il dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Oui, le cri de Jésus est parvenu à Dieu le Père. Néanmoins, Jésus n'a pas eu ce sentiment qu'il était entendu, mais au contraire qu'il était abandonné. Et ensuite, il est dit, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait de les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le tremblement de terre qui s'est passé il y a 2000 ans, quand Jésus a rendu l'esprit, quand il a crié « Tout est fini », quand au même moment, le voile de séparation entre Dieu et les hommes s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que ce bruit, qu'est-ce que ce tremblement de terre a à voir? Parce que c'est ce qui s'est passé à Jérusalem au même moment. Vous savez ce que ça me dit? Dieu était là et il regardait. Et qu'est-ce que ça me dit d'autre? Vous avez cette autre image là, vêtement déchiré? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Vous savez, il y a une tradition dans le judaïsme. C'est que quand quelqu'un est en deuil, ou alors quand un membre de sa famille quitte la foi, ou quand une copie de la Torah a été brûlée, il y a une tradition, c'est que la personne qui souffre déchire un morceau de son vêtement. Vous avez entendu cela? Le jour des funérailles, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait. Le rabbin va venir et puis va couper un bout de la chemise ou de la veste d'une personne qui est en deuil. Mais à l'époque, et on le voit très souvent dans la parole de Dieu, ça s'est passé avec Jacob, ça s'est passé avec Joseph, ça s'est passé avec Job, ça s'est passé avec beaucoup. Ce n'était pas juste une petite coupure qu'ils faisaient, ils déchiraient leurs vêtements. Ce qui voulait dire que leur cœur était déchiré, déchiré par la douleur. Vous savez, ce voile-là que l'on a vu tout à l'heure, quand j'ai lu que ce voile était déchiré de haut en bas, et c'est exactement cela, pour moi, on sait que Dieu a assisté à la scène parce qu'il nous a dit qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du tonnerre, il y a des grandes ténèbres qui ont couvert Jérusalem pendant 3 heures. Dieu le Père a assisté à la scène. Il a vu ce qui se passait, pas simplement de l'extérieur comme les disciples et les témoins, les badauds, la foule a vu, mais il a assisté à la scène, il a vu ce que l'on faisait à son fils et c'était choisi, il avait envoyé son fils pour cela et il a vu également ce qui s'est passé dans l'esprit. Les démons qui ont harcelé, tourmenté son fils, le péché qui a déformé le corps de son fils. Il a assisté à la scène et par la douleur, son vêtement, il l'a déchiré. Vous savez, quand j'ai réalisé, c'est la première fois que je réalise ça, vous pouvez lire les Écritures, et lire les Écritures, et lire les Écritures. Et à chaque fois, il y a une pellicule de révélation qui se lève et vous dit « Ah, j'avais jamais vu ça dans ce verset, ça fait 50 fois que je lis, j'ai 30 révélations, là j'en ai une 31e sur le même verset ». Ça, c'est le secret de la parole de Dieu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous et moi avons la joie de notre salut. Ça, c'est ce que nous avons reçu. La joie d'être sauvés. Mais mes amis, le salut vient jusqu'à nous gratuitement. Cette vie, elle nous est offerte gratuitement, la vie du ressuscité. La vie de Jésus qui a vaincu le péché, la vie de Jésus qui a vaincu la mort, la vie de Jésus qui a vaincu la maladie, la vie de Jésus qui a vaincu la malédiction. Tout cela, nous l'avons hériter gratuitement, juste en disant « Oui, Jésus, je reconnais que ce que tu as fait, c'était pour moi aussi. » Néanmoins, nous ne pouvons pas méconnaître, voire mépriser ce que ça a coûté au Père. Parce que vous et moi, on n'avait rien demandé à Dieu. On avait appris à vivre sans lui. Depuis qu'on est enfant, si on n'a pas été élevé dans une famille où l'évangile est prêché, tel qu'il est décrit dans la Bible, on a appris à se passer de Dieu. On a appris à décider sans lui. On a appris à faire notre vie sans Dieu. On a appris à se débrouiller. Alors que pendant tout ce temps, il y a un sacrifice qui a été offert, qui a été parfait de A à Z, qui a rempli tous les codes de la loi de l'Ancien Testament. Mais le Père n'a pas envoyé son Fils en disant « chic, chic, ce qu'il va faire va être suffisant pour qu'il revienne ». Le Père lui-même a souffert. Et aujourd'hui, quand nous adorons Dieu le Père, nous adorons Jésus, notre Sauveur, et oui, nous adorons Dieu le Père, quand nous servons parce que nous avons de la reconnaissance pour ce que le Père aussi, Dieu le Créateur, a fait. Parce qu'il a accepté, il savait qu'il allait souffrir en voyant ce qui se passerait sur son fils ou vis-à-vis de son fils. Il le savait. Néanmoins, il nous voyait tous sauvés. Vainqueur, libre, libre de choisir, connaissant la vérité, vivant en homme et en femme libre, ne dépendant d'aucun système, dépendant uniquement de Dieu. Alors, que ce soit vraiment cette journée de Pâques, une journée de reconnaissance, ce passage-là de... Cette période, je dirais, de l'humanité, on pourrait passer des jours à l'étudier. Tous les ans, on essaie de montrer sous un autre jour ce qui s'est passé. Mais que chacun puisse choisir aujourd'hui de célébrer un Dieu créateur qui ne nous a pas empêchés d'avoir accès à sa présence. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile entre Dieu et l'humanité. La Bible dit, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. On n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin que Dieu nous traite en fonction de ce qu'on a péché. Ce n'est pas intelligent de pécher, ça nous fait du mal. Mais en attendant, Dieu est celui qui ne nous fait pas payer. Amen. Anna, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Alors... Moi, je propose qu'on prenne deux petites minutes et que l'on réfléchisse à ce que l'on a entendu pendant que Anna joue. Et qu'on dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette bonne nouvelle-là ? D'abord, est-ce que j'avais vraiment compris ce qui s'était passé il y a 2000 ans, que jusqu'à aujourd'hui, ça peut impacter ma vie ? C'est ça, être un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas aller à l'église. C'est bien, on va à l'église. On va à l'église parce qu'on a envie d'entendre la vérité. On va à l'église parce qu'on a envie de connaître des croyants qui, eux aussi, sont assez fous pour croire que Jésus-Christ est vivant. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que j'ai accepté ce que Jésus a fait pour moi ? J'aimerais que tout le monde baisse les yeux, s'il vous plaît. Baisse la tête, ferme les yeux. Et que chacun se retrouve devant Dieu le Créateur et prenne conscience que Dieu a tout fait pour qu'il n'y ait plus de séparation entre lui et nous. Puis j'aimerais aussi qu'on prenne conscience du fait que nous sommes invités à nous approcher de lui. S'il y avait des personnes ici qui n'ont jamais pris position, n'ont jamais accepté ce que Jésus avait fait pour eux. Oh, bien sûr, nous sommes dans un pays chrétien. Alors, nous avons entendu parler de Jésus qui ressuscitait, mais peut-être pas au point de l'avoir réalisé qu'il est vivant et qu'on peut s'approcher de lui aujourd'hui. Si vous avez réalisé que Jésus est venu vous offrir sa vie, si vous avez réalisé que le Père a souffert lui aussi pour que vous puissiez revenir à lui, afin que vous receviez le pardon de vos péchés et afin de vous garantir une éternité dans la paix, la joie, pas comme ce qui se passe sur cette terre, mais la vraie paix, la vraie joie, la vraie justice, un vrai futur. Si maintenant, il y avait des personnes au milieu de nous qui disaient, tu sais, pasteur, ben moi j'ai, effectivement, j'accepte, moi je reconnais que ce que Jésus a fait, et je veux bien recevoir sa vie, je veux bien recevoir un cœur nouveau, je veux un nouveau départ dans ma vie. Si c'est ce que...